Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Le pape compare les agressions sexuelles d'enfants au sacrifice des rites païens et s'engage à livrer, je cite, une bataille totale contre ce fléau qui gangrène l'Église. Nous serons en ligne de Rome dans un instant. Les États-Unis promettent de passer à l'acte au Venezuela. Hier, l'aide humanitaire a été refoulée aux frontières dans la violence. Commentaire de la chercheuse Paula Vasquez. Également au sommaire de cette édition, l'ouverture au public aujourd'hui du 56e salon de l'agriculture est l'un des talons d'Achille de la filière, la transmission des exploitations. La face cachée du globe pose la question ce dimanche des critères retenus par l'ONU pour caractériser une famine et déclencher des aides d'urgence. Au président de 114 conférences épiscopales, le pape avait réclamé du concret, et il y en eut du concret lors de ce sommet que le souverain pontife a clôturé ce matin. Un cardinal colombien décrit, je cite, une mentalité cléricale privilégiant les bourreaux. Un cardinal allemand a lui affirmé que des documents établissant des preuves avaient été détruits. Et puis, trois membres de la curie ont demandé la levée du secret pontifical pour en finir avec les abus sexuels sur mineurs. Bonjour Mathilde Imberti.
Bonjour à tous.
Mathilde, vous êtes en direct de Rome. Que retenir des conclusions livrées ce matin par le pape François ?
Eh bien, c'était d'abord un discours très long, quasiment une heure, que le pape François a attaqué par des références historiques. Et il a, dans un premier temps, fait référence aux rites païens à propos des abus sur les enfants.
Cela me rappelle la pratique religieuse cruelle répandue par le passé dans certaines cultures qui consistait à offrir des êtres humains, spécialement des enfants, en sacrifice dans les rites païens. L'inhumanité du phénomène au niveau mondial devient encore plus grave et plus scandaleuse dans l'Église parce que c'est en contradiction avec son autorité morale et sa crédibilité éthique. La personne consacrée, choisie par Dieu pour guider les âmes vers le salut, se laisse asservir par sa propre fragilité humaine ou sa propre maladie, devenant ainsi un instrument de Satan.
Voilà, il a décliné les secteurs dans lesquels les abus ont lieu, la sphère familiale d'abord, puis l'éducation en général, le secteur sportif, un long déroulé avant d'arriver à la crise dans l'Église. Que demande-t-il à son Église ? De ne pas détourner le regard face aux abus et de ne jamais chercher à étouffer les cas commis par le clergé. C'est le message principal de ce discours.
Et que propose-t-il, Mathilde Imberti, pour en guise de piste pour avancer ?
Alors il insiste sur la purification nécessaire par une meilleure prévention dans les cercles religieux. Le pape François demande une nouvelle approche à ce niveau-là. Ensuite, en formant les candidats au sacerdoce, et il a parlé de la nécessité d'une formation équilibrée sur la chasteté notamment. Enfin, un changement législatif est cité dans ce discours, la législation sur la détention d'images pédopornographiques de mineurs. Cela fait partie des délits les plus graves au sens de l'Église depuis 2010. La règle concernait les mineurs de moins de 14 ans. Le pape a jugé nécessaire de hausser cette limite d'âge.
Merci à vous, Mathilde Imberti, en direct de Rome. L'être humain n'atteint sa pleine dignité que dans le socialisme et le communisme. La nouvelle constitution soumise aujourd'hui au peuple cubain par référendum adapte la mouture de 1976 à l'ouverture économique tout en sacralisant le parti unique. Le président cubain Miguel Díaz-Canel réaffirme son soutien à la révolution bolivarienne et au président vénézuélien Nicolas Maduro. Cuba, qui a besoin du soutien économique de son voisin, est plus que préoccupé par le bras de fer en cours au Venezuela. Toute autre tonalité dans les derniers écrits du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui affirme que les États-Unis vont passer aux actes pour soutenir la démocratie au Venezuela. Mike Pompeo qui rencontrera demain à Bogota le leader de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido. Nicolas Maduro a d'ailleurs rompu toute relation diplomatique avec la Colombie. L'aide humanitaire n'a pas pu franchir les frontières colombiennes et brésiliennes. Des heurts ont éclaté et des camions transportant des vivres ont été incendiés à Cucuta, ces violences que des témoins attribuent aux forces paramilitaires. Valérie Crova a sollicité Paula Vasquez, spécialiste du Venezuela et chargée de recherche au CNRS.
Ce qui a été étonnant, c'est deux choses. La virulence avec laquelle se sont manifestés des groupes paramilitaires qu'on appelle au Venezuela les colectivos, mais aussi la milice et d'autres groupes comme des forces spéciales qui ont agi à la frontière et qui ont réprimé les manifestants d'une violence assez inouïe et virulente. Là, ça, c'est une surprise que la répression ne vienne pas de la part des forces de l'ordre, disons, institutionnelles, mais les mettre justement dans la frontière, c'est un acte dont on ne s'entendait pas de la part du gouvernement de Maduro. Et la deuxième chose qui surprend, c'est qu'on s'attendait à des défections plus importantes au sein des forces armées vénézuéliennes. Il n'y a eu qu'une soixantaine, la désobéissance n'a pas été massive.
Est-ce que vous pensez justement que c'est un mouvement qui peut se poursuivre?
Ben, disons que le moment est un peu passé. On a la loi d'amnistie par Juan Guaido a commencé à être énoncée depuis le 25 janvier. C'est-à-dire tout a été fait pour que les forces armées vénézuéliennes se démarquent de Nicolas Maduro. Et on voit bien qu'elles ne vont pas se fracturer, les trois forces, plus les hauts commandements et hauts gradés. Disons que ça n'étonne pas aux spécialistes de la question militaire dans la mesure où les forces armées vénézuéliennes ne se sont jamais fracturées dans leur histoire. Ils restent toujours en bloc.
Ça veut dire que les forces armées vont rester, à votre avis, fidèles au président Maduro ?
C'est impossible de faire une prédiction à ce moment.
Paola Vasquez avec Valérie Crovin. Selon un rapport onusien, l'année 2018 était la plus meurtrière jamais enregistrée pour les civils victimes du conflit afghan, avec 3804 décès, en grande majorité imputés aux groupes insurgés des talibans et de l'État islamique. À Alger et dans bien d'autres villes algériennes, la colère ne retombe pas. Avant-hier, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues et étrillés. La cinquième candidature à la présidentielle d'Abdelaziz Bouteflika, sévèrement diminuée par la maladie. La jeunesse, qui vit cette candidature comme une humiliation collective, dénonce le cynisme du régime. Ce dimanche, nouvel appel à manifester à Alger, Laïla Berato.
L'appel à manifester a été lancé il y a plusieurs jours déjà par le collectif Mouattana, un collectif qui rassemble des personnalités de la société civile, mais aussi des petits partis politiques. Mouattana avait déjà organisé des rassemblements contre le cinquième mandat du président Bouteflika il y a plusieurs mois à Alger, mais aussi à Constance. La question, évidemment, c'est celle de l'ampleur de la manifestation, car même si la mobilisation de vendredi était inhabituelle, il y a beaucoup de défiance ici vis-à-vis des partis politiques. Alors, dans un communiqué hier, Mouattana appelait à maintenir la pression. Il y aura bien en fait un avant et un après 22 février. La presse estime ce matin que la rue a polarisé le paysage politique. Plusieurs partis d'opposition ont appelé au départ du gouvernement et certains demandent la mise en place d'une commission indépendante pour organiser les élections. Du côté des autorités, hier, c'est le chef du FLN, le parti historique et majoritaire du pays, qui a réagi en lançant à ceux qui appellent au changement « Faites de beaux rêves ». La télévision et la radio nationale n'ont pour le moment pas évoqué les manifestations de vendredi. Une rédactrice en chef de la radio a annoncé hier qu'elle démissionnait de ses fonctions de responsable parce que la radio n'avait pas encore évoqué les manifestations.
Élections législatives aujourd'hui en Moldavie, l'un des pays les plus pauvres d'Europe, est profondément divisé entre pro-russes et partisans d'une intégration à l'Union européenne. Pourquoi maintenir un salon de l'agriculture quand les agriculteurs sont chaque année de moins en moins nombreux? La question a été sincèrement posée dès la présentation de cette édition 2019 qui s'ouvre aujourd'hui au public, avec au grand jour les bouleversements que vit le modèle agricole français, parmi lesquels ces difficultés récurrentes que rencontrent les agriculteurs qui souhaitent transmettre leurs exploitations et éviter ainsi une trop grande concentration des terres. Les précisions d'Anne-Laure Chouin.
Si les installations en agriculture sont de plus en plus le fait de jeunes qu'on dit non issus du monde agricole, c'est-à-dire pas filles ou fils d'agriculteurs, cela ne suffit pas à enrayer le phénomène. Les agriculteurs ont de plus en plus de mal à transmettre leur exploitation parce qu'ils font moins d'enfants, comme tout le reste de la population, parce qu'aussi leurs enfants ne souhaitent pas toujours continuer dans un métier difficile et peu rémunérateur. Pour Jean-Luc Poulain, céréalier dans l'Oise et président du Salon de l'agriculture, c'est en redonnant du revenu à l'agriculteur qu'on réglera le problème.
Pourquoi les exploitations s'agrandissent? Parce qu'il y a de moins en moins de revenus à l'hectare et que pour vivre, il faut de plus en plus d'hectares, c'est tout simple. Prenons une production qui est connue dans le monde entier, qui est une production française, qui s'appelle le champagne. Aujourd'hui, les exploitations viticoles en Champagne sont plus petites en moyenne qu'il y a 20 ans. Pourquoi? parce qu'on gagne sa vie avec un hectare de champagne. Une exploitation céréalière dans le Cher, dans le centre de la France, elle est de plus en plus grande. Elle est passée de 200 à 300, de 300 à 400 hectares, et les gens n'y arrivent pas. Il suffit de redonner du revenu pour qu'on ait plus de monde en agriculture.
Mais le phénomène a d'autres causes, notamment le passage d'un modèle agricole familial à un modèle plus capitalistique avec des investisseurs venus de l'extérieur. Avec 45% des agriculteurs qui ont plus de 50 ans aujourd'hui, ce sujet de la transmission des exploitations agricoles va se poser de façon encore plus aiguë ces prochaines années.
Anne-Laure Chouin, il est 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe que nous présente ce dimanche Nadine Epstein. Bonjour Nadine.
Bonjour à tous. Les organisations non gouvernementales sont de plus en plus indésirables dans le monde. Près de 40 lois qui discréditent et nuisent aux droits d'association et aux activités des organisations de la société civile ont été adoptées ou sont en passe de l'être au Pakistan, au Bélarus, en Égypte, en Chine, en Hongrie, au Brésil. Au total, ce sont 50 pays qui sont pointés par Amnesty International. Dans son rapport des lois conçues pour museler, l'ONG recense et dénonce les nouvelles législations qui répriment les défenseurs des droits humains jusqu'à l'emprisonnement. 20 ans après sa capture au Kenya par des agents turcs, l'opposant historique kurde Abdullah Öcalan, détenu à l'isolement sur l'île d'Imrali au large d'Istanbul, reste très populaire. Un quadragénaire allemand s'est grièvement blessé en s'immolant pour demander la libération du cofondateur du PKK. Parallèlement, 750 personnes qui voulaient marquer le 20e anniversaire de l'arrestation du chef du Parti des travailleurs du Kurdistan ont été appréhendées par la police turque. 61 ont été emprisonnées, 448 font l'objet de poursuites judiciaires. La famine est un fléau connu de tous qui tue un enfant toutes les 10 minutes au Yémen, par exemple. 8 agences de l'ONU et des ONG internationales ont défini plusieurs critères pour décréter une famine et déclencher une aide. Parmi ces conditions, la déclaration d'une maladie pandémique, le constat d'une malnutrition aiguë de 30% des enfants, le recensement de 2 décès par jour pour 100 000 habitants et les déplacements de populations à grande échelle, etc. Évidemment, les conflits, la guerre et les catastrophes naturelles sont les premiers facteurs de la famine. Et bien sûr, elle touche d'abord les personnes les plus vulnérables et les enfants. Près de 300 millions de filles et de garçons en subissent les conséquences dans le monde. L'année 2019 marque le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant et le 70e anniversaire des conventions de Genève. Or, chaque année, le nombre de mineurs affamés, déplacés, déscolarisés augmente. Le programme d'alimentation mondiale, allié nourriture et éducation, assurer un repas complet à l'école, c'est davantage qu'un simple plat, comme l'explique Carmen Burnano, directrice OPAM de passage à Paris cette semaine.
Dans un pays qui a subi un tremblement de terre, comme au Népal, c'est difficile pour un enfant puisqu'il a vécu un traumatisme, il a dû quitter son école, ses parents sont assez paniqués car ils ne savent pas s'ils vont pouvoir lui donner à manger. Et parfois même, il y a certains membres de la famille qui ont disparu à cause du tremblement de terre. Donc pour s'assurer que les enfants vont revenir à l'école, puisqu'au final, c'est le lieu dans lequel ils peuvent se sentir en sécurité. Le meilleur moyen de faire ceci, c'est de leur donner un repas pour s'assurer qu'ils restent à l'école. C'est ce qui se passe pour les enfants qui vivent dans des endroits de crise, comme par exemple au Mali, au Burkina Faso. Et en Syrie, ils ont un repas chaud, ils ont accès à l'école et ils peuvent se sentir en sécurité. Par exemple, ce qui se passe pour ces enfants qui ont vécu des crises, comme par exemple au Népal ou en Syrie, quand je visite ces écoles et quand je discute avec ces enfants, c'est que le plus souvent, ils gardent un peu de la nourriture pour pouvoir le ramener à la maison et pour pouvoir le donner à leurs frères et sœurs ou à leurs parents, puisque c'est la seule source de nourriture qu'ils ont. Ce que j'aimerais rappeler sur les impacts des programmes d'alimentation scolaire, un simple repas n'est pas juste un simple repas. Ils ont un impact fort sur les femmes, les mères et les femmes du village qui peuvent apporter de la nourriture qui sert à fabriquer les repas qui sont donnés dans cette école. Au Nigeria, par exemple, on a 75 000 femmes qui sont organisées dans différentes coopératives qui distribuent des repas dans les écoles. Donc vous pouvez imaginer l'impact en termes d'emploi que ça leur représente pour le pays.
Vous êtes vous-même originaire d'Équateur. Est-ce que vous travailler avec le Venezuela.
We do, of course, have strong interest in supporting Venezuela.
Alors oui, effectivement, le programme alimentaire mondial est attentif à la situation au Venezuela. Actuellement, l'essentiel de notre aide humanitaire passe par les pays voisins qui accueillent les réfugiés du Venezuela, la Bolivie, la Colombie et le Pérou et l'Équateur. Le programme alimentaire mondial est en place aux frontières du Venezuela avec des programmes de distribution de vivres mais également de distribution d'espèces pour s'assurer que ces populations ont un minimum et peuvent se nourrir. Actuellement, nous ne sommes pas encore au Venezuela. Une chose que l'on fait, c'est de discuter avec le gouvernement afin de rappeler l'importance de l'aide humanitaire, mais ce sont actuellement des discussions.
Ainsi se referme la face cachée du globe de ce dimanche. Merci à vous, Nadine Epstein. Quelques mots de la météo. Beau temps sur l'ensemble du pays, température maximale comprise entre 13 et 20 degrés. Cette édition a été préparée avec M. Le Chili et la technique Florent Bujon.